418-971-1021. On m'a dit tout à l'heure que dans le parc, c'était compliqué. Est-ce que c'est encore le cas si vous êtes dans ce secteur-là? 418-971-1021, des camions qui avaient de la misère à monter côte. Donc, si vous êtes à Québec avec vos pneus d'hiver, puis vous avez l'intention d'aller au Saguenay dans les prochaines minutes, on vire de bord, puis on s'en va à la maison. On fait du télétravail. On fait du Zoom, on fait du Messenger.
Ouais, il y avait un petit incident là, dans le secteur du lac, du lac Jacques-Cartier, du côté de la réserve faunique des Laurentides, kilomètre 93, donc en direction sud. La voie de gauche qui était bloquée, ça s'est terminé dans les dernières minutes. Donc, de ce côté-là, ça devrait aller mieux. Mais sinon, ça va bien sur les routes. Il n'y a rien à mentionner. Vous avez l'air prudent aujourd'hui avec ces vents et cette petite neige.
Voilà, ça va revenir. À un moment donné, le printemps va revenir, les amis. Hey, notre chroniqueur chasse-pêche est là, Martin Bourget, qui est le président du groupe Avant Chasse-pêche. Salut mon ami!
Salut vous autres, comment ça va?
Ça va très bien. On fait avec ce qu'on a à l'extérieur présentement, mais Martin, tu m'as déjà dit que ça existait, la fameuse chasse à la marmotte.
Oui, ça existe.
Puis tu m'as dit aussi que tu allais organiser quelque chose pour Pascal, non, pour qu'elle puisse aller à la chasse à la marmotte.
Ça, de mémoire, Martin, t'as jamais dit ça.
Oui, bien, ça serait le fun. Pour vrai, ça serait le fun parce que, tu sais, on parle souvent de nos activités de récolte, on parle de gros panache, on parle de ci, on parle de ça, mais on aborde malheureusement pas assez souvent la synergie qui existe entre les cultivateurs et les chasseurs dans le service qu'ils peuvent se rendre entre eux autres. C'est-à-dire que souvent, les chasseurs vont être appelés pour aller aider les cultivateurs dans les animaux qui, tu sais, en effarouchage, mettons, quand c'est la saison de la sauvagine, comme présentement, bien, il y a de la sauvagine qui se dépose sur les champs, ça mange tout. La marmotte, là, ça vire la terre, ça vire les roches, ça brise de l'équipement beaucoup. Fait que d'avoir des chasseurs qui vont faire un certain contrôle. Alors, on parlera pas de déprédation dans le cas de la marmotte, là, parce qu'à part s'attaquer aux cailloux, ça attaque pas grand-chose. Mais c'est une synergie qui existe. Oui. Honnêtement, ça améliore la vie des cultivateurs. Il y a même il y a un membre de notre équipe qui parle présentement avec l'UPA justement à ce niveau-là, parce que certains secteurs ont des problèmes sur les terres cultivables, là, avec l'ours, avec le dindon, avec le cerf de Virginie, avec la sauvagine, avec plein d'espèces que si on met des efforts de récolte, qui deviennent des efforts de gestion en synergie, ben oui, c'est Pascal peut devenir un exemple de...
Ben oui, je pleurerais. Ce serait pas vraiment un bel exemple.
En Beauce, là, quand ils font le fameux tournoi de chasse à la marmotte, c'est celui qui chasse la plus grosse qui gagne, c'est ça?
Je pense que c'est en quantité. Ça, c'est la gang de chasse aux maniaques. Ça fait des années qu'ils font ça. Je pense que c'est en termes de quantité parce que, écoute, il y en a de la marmotte, c'est terre cultivable. Ça n'a pas de bon sens. Puis je veux dire... Pour vrai, ça peut breaker un agriculteur pour une semaine s'il brise une machine de manière majeure. Ils ont des assurances agricoles, mais il y a des limites à la vitesse à laquelle tu peux faire réparer. Puis là, ton champ va-tu être encore dans le bon temps pour être récolté? Ça a des grosses incidences. C'est niaiseux. On rit de ça à chasse à marmotte, là, mais ça peut avoir des grosses incidences. Un cultivateur qui s'associe avec un chasseur pour faire du contrôle, un trappeur pour faire du contrôle pour, par exemple, comment on appelle ça? Tabarouette, ça va bien. Dans le clos, là. C'est l'eau, est-ce que l'eau s'évacue? Mais d'avoir des castors, des remusqués qui viennent bloquer tous les canaux d'évacuation de l'eau, d'avoir un trappeur, ça donne un cristi coup de main. Là.
Ben oui, puis moi, j'avais une ancienne belle-mère qui avait des foyers de personnes âgées, puis dans la cour arrière, c'était infesté de marmottes. Puis je te l'avais déjà raconté, cette histoire-là. Oui. Là. Sérieux, il y avait à peu près une vingtaine de marmottes.
Ah, mon Dieu!
Puis ils faisaient peur aux personnes âgées. Fait que là, moi, m'en va sur Canadian Tire, je vois une grosse cage pour trapper la marmotte. Puis c'était pas compliqué, là. Tu mettais de la salade.
T'as appelé, toi, pourquoi? Il me manque un petit bout.
Moi, j'ai plusieurs qualités, même si ça paraît pas. Et j'en ai capturé à peu près une vingtaine, mais là, le problème, c'est t'as mis où la marmotte? Parce que moi, je suis pas un chasseur. Tu comprends? Je suis un photographe d'animaux, là. Mais par contre, je lève la main quand c'est le temps de manger de la viande de bois. Mais là, c'est beau, j'ai capturé la marmotte. Je la mets où? J'ai trouvé un spot qui était, dans le temps, qui était une idée de génie. J'ai été emporté à peu près une vingtaine. Puis après ça, je travaillais pas encore
en
radio. Ouais, c'est ça. Après ça, je travaillais pas encore en radio, mais quand j'ai commencé à travailler en radio à Québec, j'ai rencontré un collaborateur, Rénal Duberger. Ça te dit quelque chose?
Le nom me dit quelque chose, mais je le connais pas, mais ça me lève quelque chose, oui.
Le climato-sceptique! C'est un prof, un prof de géo, de mémoire. Il y a un gars super, super gentil qui me dit... je ne sais pas pourquoi on avait parlé de marmotte, là, mais c'est un hasard qui est dans l'émission. Puis il me dit, moi j'ai des problèmes de marmotte. Je dis, mais où t'habites, Rénal? Puis là, il me dit le spot où il habite.
Non!
Puis c'est non. Exact. Pour les gens, là, c'est... Bon, non, je le dirai pas, mais c'est carrément là que j'avais été porter les 20 marmottes. Quand j'y ai dit ça, Martin, il était en beau fusil.
Fait que ça prend un expert, pas Yannick Marceau.
Des fois, c'était 3 marmottes par jour que j'allais porter chez Rénal. Mais écoute, il y avait un beau terrain. Qu'est-ce que tu veux?
C'est malade. Je me suis dit,
la marmotte va vivre une belle vie, mais c'était
Martin,
carrément...
Martin, peux-tu poursuivre ça? Un genre de gentleman qui s'en improvise comme ça?
On peut l'inciter à continuer à faire de la radio. Il est excellent dans ce qu'il fait.
Ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'ai eu des épisodes de marmotte, puis mon Suisse que j'avais été porté quelques centaines de mètres, je pensais que c'était suffisant. Le lendemain, il était là. Puis après ça, plusieurs kilomètres, puis il est revenu comme dans son trou le lendemain.
Incroyable.
Alors, je ne suis pas un spécialiste pour m'occuper des animaux qui...
C'est bizarre que toi, tu nous racontes, puis on y croyait déjà que tu n'étais pas un spécialiste, mais tout sur le coup, tu t'es dit, moi, je vais t'organiser ça.
Ben, tu sais, le monde est petit pareil, là. Tu as en entrevue le gars chez qui tu allais porter marmotte, qui est en beau sacrement après toi.
Ah, le shitloader de marmotte pour déplacer une place. Oui, non, on déplaçait le problème de place.
Ouais, c'est ça. Hey, tu te souviens-tu, parlant de souvenirs, tu te souviens-tu du maire Labeaume qui avait dit « Je ne connaîtrai pas de repos tant et aussi longtemps que je n'aurai pas réglé le problème de la carpe asiatique? »
Ah, mais oui, il ne dormirait pas. Fait que, si je me fie à ça, il est fort en tabarouette sur l'insomnie. Là.
On en est rendu où avec la fameuse carpe asiatique? Là?
On a à peu près pas reparlé. Puis ce temps-là, honnêtement, là, c'était son dossier dans la mire. On n'a pas reparlé depuis ce temps-là. La carpe asiatique, on n'a pas eu la catastrophe non plus qu'on escomptait avoir, mais qu'on escomptait de laquelle on avait peur. Mais on n'a pas eu la catastrophe. Elle est encore présente. Il y a encore des veilles qui se font sur le plan ministériel. Il y a encore des... Écoute, c'est une espèce que si tu captures, tu dois le reporter. Si tu dois appeler pour dire « j'ai pogné une carpe asiatique à telle place ». Mais il semblerait que finalement, ça n'a pas fait l'épidémie que ça devait faire. Puis le maire Labeaume, ben non, tu sais, il est sorti ça de son chapeau une bonne journée. Puis depuis ce temps-là, à ce que je peux voir, il fait encore de dos parce qu'il est encore en vie. Fait que, d'après moi, ça a passé de l'ouette.
Oui, c'est ça. Puis le bord rayé, on en est rendu haut parce que ça aussi, c'était un épisode de « hey, du bord rayé, on peut pas pêcher ça, remettez ça à l'eau ». Puis là, finalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des pêcheurs qui en trouvent partout, là.
Ben oui, mais tu sais, c'est un gros dossier, puis c'est un dossier qui est dur. C'est dur de comprendre ce dossier-là pour quelqu'un qui n'est pas au fait de comment ça fonctionne, la désignation des espèces. Parce que t'as dans la gestion des espèces au Canada, t'as le fédéral qui légifère là-dedans, qui va dire telle espèce, par exemple, on la suit depuis des temps immémoriaux, et puis on la considère comme étant soit en danger ou quoi que ce soit. Ils vont, eux autres, désigner l'état d'une espèce. Elle n'est pas en danger, est en danger de disparition ou indisparue. Puis d'un autre côté, provincialement, ben, tu as les ministères qui vont légiférer sur les plans de gestion de pêche, de chasse sur une espèce particulière. Mettons la truite grise, le bord rayé ou quoi que ce soit. Fait qu'on a une réalité qui est le bord rayé. On va dire la population historique du bord rayé, celle qui était là dans le temps, là, qui faisait des tournois de pêche en face du château Frontenac, là. Il y avait énormément de bords rayés. C'est une espèce qui a été surpêchée commercialement et par loisir, puis qui a pris le bord, qui a littéralement comme pas mal, presque disparu de nos eaux. C'était très rare d'en pogner.
Mais l'humain était responsable de ça, Martin?
Oui, en très grande partie. Puis les contrôles aussi de prédation. Tu sais, comme présentement, on crie beaucoup sur la chasse au phoque gris, mais la chasse au phoque, le phoque gris, la surpopulation de phoque gris, est en train de détruire les stocks de morue, puis etc. Non, il affecte directement les autres espèces parce qu'il est en surpopulation. Fait que quand on ne gère pas une surpopulation de prédation comme ça au travers des activités de récolte, commerciales ou encore de chasse, ben tu affectes automatiquement. C'est inévitable. Tu affectes automatiquement une autre espèce parce que cet animal-là se nourrit d'une autre espèce.
Mais je vais te poser une question bien niaiseuse. Là. Quand on n'était pas là, les animaux étaient là, ils se reproduisaient, puis il y avait une autorégulation, il y avait des prédateurs qui arrivaient, puis s'il y avait de la bouffe, bien, il y avait plus de prédateurs pour que tout ça soit égal. Pourquoi toujours l'intervention des êtres humains là-dedans?
Bien, toujours l'intervention. L'être humain a toujours intervenu là-dedans parce que depuis la nuit des temps, on chasse pour se nourrir. Donc, les populations vont grandir dépendamment du territoire qu'ils ont. Nous autres, quand on arrive là-dedans, bien, on change la façon de faire de ces animaux-là. Sur la Terre, on leur crée des obstacles infranchissables comme des villes, des bourgs. On change les cours d'eau, on fait des barrages pour faire de l'hydroélectricité. On change leur réalité. On change leur réalité aussi par nos activités commerciales sur les différents plans d'eau, puis sur la Terre en faisant de la récolte de bois, etc. Donc, on vient changer complètement la dynamique. Cette dynamique-là, là, elle est vraie, ce que tu dis, si on retourne en arrière et puis on fait sans l'industrialisation. Mais l'industrialisation puis les activités commerciales de récolte de ressources, qu'elles soient animalières ou linéaires, vient changer totalement la dynamique de déplacement des troupeaux, la dynamique de reproduction des troupeaux. Et malheureusement, on doit adresser à ce moment-là. Fait que si tu, par exemple, parce que tu as une valeur écologique X, Y, Z, tu bâtis une fédération ou une association mondiale puis t'empêches la chasse aux phoques, qui est une chasse ancestrale, bien nécessairement, tu avais une régulation qui se faisait de manière naturelle parce que les nations prélevaient du phoque, parce que les Blancs prélevaient du phoque pour les huiles que ça donne, pour la peau, pour la viande, pour le etc.
Survivre à la base là, pour eux aussi. Là.
Bien, définitivement. Fait que si tu retires ces activités de récolte-là, bien, tu arrêtes littéralement le contrôle des populations. Puis ça, c'est des choses qui étaient présentes de manière ancestrale. Quand tu arrêtes les contrôles de population, puis qu'en plus tu bâtis des obstacles infranchissables par ton industrialisation, ben tu viens fucker le chien dans patente complètement. Là, le contrôle des populations, et surtout quand on regarde prédateur vs proie, devient problématique. Là, tu crées d'autres problèmes. Hein, le phoque, c'est le parfait exemple qui est en train de décimer complètement des populations, certaines espèces. Quand tu entres par ton industrialisation, par les cales de bateaux, des espèces qui sont non endémiques, donc qui ne viennent pas de la place, qui viennent compétitionner tes propres espèces dans leurs sources de nourriture, tu viens affaiblir la capacité de soutien de ton milieu, tu viens affecter d'autres espèces. Il y a beaucoup de choses que l'homme fait qui ne lui permet plus de dire qu'il pourrait se retirer puis de laisser la planète se gérer par elle-même parce qu'on a créé des contraintes puis on a créé de la compétition qui est non endémique qui fait qu'on doit gérer nos populations. Autrement, on se ramasse avec des foutus problèmes.
Parfait. Le bord rayé, est-ce que tu as l'impression qu'on va modifier un peu les façons de le prélever?
Bien, c'est ce qu'on veut présentement. Tu vois, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs vient de mettre en place une pétition. Si vous vous rendez sur le site de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, vous pouvez aller signer la pétition. Puis je vous explique un petit peu l'enjeu là-dedans. C'est que le fédéral, dans son suivi de l'espèce, fait le suivi de la population ancestrale, donc de la population historique dans le fleuve Saint-Laurent, avec la génétique qu'elle a. On fait des prélèvements à voir c'est quelle population, et on juge cette population-là. Mais il y a 25 ans, au travers de l'opération Renaissance, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs a mis en place une pisciculture et a réintroduit du bord rayé, qui est une nouvelle population qu'on a mis dans le fleuve Saint-Laurent. Cette population-là, à venir jusqu'à date, n'était pas prise en compte dans le décompte et le statut de l'espèce. Donc, on a identifié l'espèce comme étant en voie de disparition. Or, la réalité, c'est que présentement, si moi et toi, Yann, on s'en va sur le fleuve en avant du château, puis on s'en va pour pêcher le doré, fortes sont les chances qu'on prenne autant, sinon plus de bord rayé que de doré, parce qu'il est très, très, très présent dans nos eaux. Fait que là, les pressions qui se font, il y avait un inventaire qui était prévu pour 2022, on en parlait en 2019, le comité COSEPAC. Le comité COSEPAC, là, ce que c'est, là, rapidement, comité sur la situation des espèces en péril au Canada. OK? That's it. Ça, c'est le COSEPAC. Le COSEPAC conduisait une étude en 2022, mais encore là, on est allé sur les bases de la population historique. Fait que là, la FDCP, elle, ce qu'elle demande, et c'est ce qu'on veut, les pêcheurs, c'est de dire, prenez en considération le nouvel apport en espèces dans le fleuve. Il est excessivement présent et non seulement ça devient possible de permettre la pêche sportive au bord rayé, mais ça va devenir nécessaire parce que si on se base sur l'ancienne population qui est définitivement et presque plus présente pour empêcher les prélèvements de bord rayé dans le fleuve, bien là, on crée le problème inverse. C'est-à-dire que on revient comme jadis, il y a du bord rayé. On doit, comme on est un être humain, on est sur la planète, dans l'écosystème, on récolte de la ressource pour se nourrir. Et si on ne fait pas ces activités de récolte-là, ben le bord rayé va prendre de l'avance sur les autres espèces. Puis là, il va venir jouer sur une compétition alimentaire qui peut venir affecter les autres espèces qui endémiquement sont présentes dans le fleuve Saint-Laurent et ses effluents. Les saumoniers ont excessivement peur parce qu'on a du bord rayé qui monte dans les rivières à saumon. Les travaux forestiers font que les rives des rivières sont de plus en plus droites, le courant est de plus en plus droit, il y a de moins en moins de fosses pour les saumons, pour se reproduire puis pour se reposer. Puis là, on commence à trouver des petits saumons, des tacons, dans l'estomac des bords rayés à l'embouchure des rivières à saumons. Donc, le bord rayé monte dans les rivières à saumons. C'est-à-dire que si tu ne le contrôles pas par la pêche, en repermettant la pêche sportive, ben ça commence à être une urgence. Tu vas te ramasser avec un problème de compétition qui va affecter d'autres espèces. Fait que la FDCP a cette pétition-là. faut aller la signer, faut brasser un petit peu pour que les élus mettent de la pression sur la reconnaissance de l'espèce qu'on a réintroduite, donc de la population qui a été réintroduite, pour permettre la pêche. Parce que, je te le dis présentement, là, peu importe où est-ce que tu pêches sur le fleuve en avant de Québec, là, si tu n'as pas pogné de bar rayé, c'est parce que tu n'avais rien sur le bout de ta ligne. Là. Il y en a énormément.
OK. Ben, souhaitons que ça soit accepté et que les pêcheurs puissent s'amuser avec cet été. Hey, à la hauteur du fleuve Saint-Laurent, c'est un message que je viens de recevoir sur Messenger. Quelqu'un qui se promenait la semaine dernière sur la promenade Champlain. Puis il y a un quai là, à un certain endroit, là, quai des Cageux, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle. Puis il y a des gens qui pêchent. À ce temps-ci de l'année, peuvent-tu encore pêcher sans problème? Oui.
C'est-à-dire qu'à ce temps-ci de l'année, ça va dépendre des espèces qui sont ciblées. Là, écoute, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a tellement d'espèces qu'il faut vraiment aller voir l'espèce dont tu me parles pour voir s'ils ont le droit de le pêcher. Mais c'est effectivement un excellent quai de pêche, entre autres pour le doré, le quai des Cageux à Québec.
Et ce qu'il m'a écrit, c'est qu'il y a, un pêcheur là, qui a pris un gros poisson rouge.
Oui, ça se peut.
C'est une espèce envahissante, ça, les poissons rouges? Oui. C'est-tu des gens qui libèrent leur aquarium dans le fleuve Saint-Laurent? C'est un peu débile.
C'est un peu débile, effectivement. Puis il faut vraiment sensibiliser les gens. Les espèces, tu sais, tu as sûrement déjà vu passer des nouvelles sur les Everglades en Floride où est-ce que présentement, ils vont te payer si tu vas chasser le python de Birmanie. Le python de Birmanie, la Birmanie, c'est pas tout à fait dans le même coin que la Floride.
C'est pas le même continent.
Non, c'est ça.
Mais les gens, quand les pitons deviennent trop gros, les relâchent en nature littéralement. Il est arrivé la même chose, c'est côte de la Géorgie avec le poisson lion, le fameux poisson là, qui poison, si on veut, là, si tu dessus. Ben, c'est la même chose au Québec. Les gens, si tu vas, entre autres, à la bibliothèque de Val-Bélair, va voir dans le petit lac qui est à côté, c'est bourré de gros poissons rouges. Basse plein air Sainte-Foy aussi, tu t'en vas dans le lac, dans le petit lac, où est-ce qu'on ensemence la truite mouchetée. De l'ombre de fontaine, ben, si tu en vas sur le quai, tu as un paquet de carpes puis de trucs de poissons rouges qui vont venir te voir. Fait que les gens relâchent.
Mais dans la toilette, puis ça se rend avec les tuyaux d'acadie où ils vont vraiment dans les cours d'eau. Tout
le monde s'en va vraiment tirer ça dans les cours d'eau. Là,
premièrement, ça m'écœure un peu. Pourquoi est-ce que les gens font ça?
Mais toi, tu le mettrais dans la toilette, ton poisson rouge. Vivant, là.
Ben non, probablement, j'aurais pas de poisson rouge. Là. Moi, je suis vraiment traumatisée par une histoire qu'un jour, peut-être, je commenterai à la radio. Mais non, c'est sûr que non. Puis j'ai entendu. Python de Birmanie, chance pour au Québec, des gens se procurent un serpent.
Oui.
Il devient trop gros. Et ils se disent, on va aller le lancer dans la forêt.
Oh, et des pitons et des iguanes. Il y a des iguanes bien plein en place aussi. Les iguanes, les gens achètent ça, ça fait 8 pouces de long, ça finit que ça fait 4 pieds et demi, 5 pieds de long. C'est trop gros, ça chie partout dans la maison.
Toi, Yannick, comment? T'as un lézard. Toi.
Moi, j'ai un gecko.
Oui, c'est ça. Ouais,
t'as un gecko à mon garçon.
Oui, c'est ça.
Ah, ça que t'as. S'il relâche six premières hivers, c'est terminé. La première fois que tu as 5 degrés Celsius, lui.
Oui, mais sais-tu quoi, le gecko, là, c'était tel que tel, mais je savais pas que j'allais amener comme le lac chez nous. Là. Parce qu'au début, quand j'ai adopté le gecko, je savais pas que ça venait avec des criquettes.
Ben oui.
La première semaine, c'était un enfer chez nous. Là. Je veux dire, c'était comme dans ma maison, ça sonnait comme autour d'un lac. Là.
Ah, c'est full feng shui. C'est full feng shui. Il y en a qui achètent des CD-ROM pour s'endormir et que ces sons-là. Toi, t'as ça de drette. Ouais. Vrai, vrai, là.
Il achète le criquet, lui.
J'ai attendu que le gecko règle le sort des grillons. Puis après ça, j'ai acheté des vers de soie. Puis le gecko, il aime bien ça, des vers de soie. Puis ça chante pas la nuit, là.
Non. On s'en parlera off-record. J'en ai eu beaucoup. Je peux t'orienter là-dedans.
Si on revient au poisson rouge, là, c'est quoi les risques? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et nous disent « Oh, je pensais bien faire, moi, en remettant le poisson dans un habitat. »
C'est un très grand risque qu'on court en faisant ça parce que le poisson rouge ou encore la carpe qu'on a des fois dans les bassins, là, c'est des omnivores. Ils vont manger à peu près de n'importe quoi. Ils vont compétitionner directement à l'alimentation de nos espèces indigènes ici. Et si moindrement, petit gars rencontre petite fille, ça se reproduit à une vitesse phénoménale et c'est excessivement résistant. C'est capable de vivre dans les eaux qu'on a ici sans aucun problème. Ça s'adapte très bien. Donc, tu peux littéralement, un peu comme les gens qui garochent les nénuphars de leur bassin sur leur lac, tu te ramasses 2-3 ans après que tu as un cristi de problème de nénuphars sur le lac. C'est la même affaire. Ça devient un problème parce que tu vas surplomber une espèce locale nécessairement, surtout qu'un poisson rouge, c'est très efficace pour se nourrir. Très efficace.
Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils prennent ça un peu plus au sérieux qu'ici. Là. Aux États-Unis, quand tu te promènes à moto d'État à État, là, tu vois qu'il y a des spots où il y a des policiers qui disent aux gens qui ont des bateaux, vous devez vous tasser à droite, puis les gens doivent laver leurs bateaux quand ils se promènent d'état en état.
Mais ça commence à être... Juste Lac Beauport, je sais que depuis l'an dernier, l'été dernier, t'as plus le droit d'y aller en plaisance. Mettons, une journée, tu décides, toi, t'apportes ton bateau.
Ouais, t'as plus le droit d'y aller.
Puis, tu sais, c'est fini. T'as une date d'entrée maximale pour faire en sorte que ton bateau y soit, puis une date aussi où tu peux l'enlever. Là. Ce qui n'était pas régi, par contre, je crois, c'est comme tout ce qui est canot. Il y a des courses de canot, de kayak, puis tout. Puis
ça dépend des lacs. T'as raison, Pascal. De plus en plus, on a des stations de lavage. Il y a des stations de lavage obligatoires, puis il y a des stations de lavage volontaires. Parce que les espèces envahissantes, on va parler, oui, des différents poissons, mais certaines algues qui vont se promener de lac en lac ou certains mollusques qui vont se promener de lac en lac peuvent carrément tuer un lac, littéralement. Là. Il y a tout un rapport dans un plan d'eau. Il y a tout un rapport sur la capacité que le plan d'eau a à manager ses déchets puis le gaz qui est dissous dans l'eau. Et si tu rajoutes des espèces qui ne vont pas là, tu viens changer ça. Quand tu changes ça, tu changes nécessairement le pH de l'eau. Fait que tu viens nécessairement nuire à ton environnement. Des lacs là, qui étaient des lacs historiques au niveau, par exemple, de l'ombre de fontaine, qu'il n'y a plus un cristi de poisson là-dedans parce que les taux d'oxygène ou la possibilité de dissoudre des gaz dans ce taux-là est rendu nul ou à peu près.
Puis on ne le sait pas toujours. T'sais, paddleboard, moi, quand j'avais commencé, on m'avait enseigné le fait qu'il faut que je la rince, faut que je la lave de cours d'eau en cours d'eau parce que je n'aurais jamais pensé à ces choses-là. Puis même pour les vestes de flottaison. On nous avait expliqué que la rincer est où, la laver. Puis, c'est des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, si vous le saviez, waouh!
Non, mais tu sais, c'est la raison pour laquelle on te parle, Martin, chaque semaine. Tu fais de l'éducation, puis en plus, tu es intéressant.
On essaye.
Hey, Martin Bourget, tu es président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Tu as ta propre émission de chasse et de pêche. On peut te voir où?
Nécessairement, tous les jeudis soirs, 21h sur les ondes de Télémag, maintenant sur Sportsman Channel et sur Carbon TV aussi. On diffuse en simultané les jeudis soirs, 21h sur Facebook et sur YouTube, évidemment. Vous nous voyez en live tout le temps. On est en live à soir en passant. Là, ceux qui s'en vont s'échantir puis qui se demandent quelle munition utiliser avec son calibre cette année. Là, on fait ça ce soir, moi et Kate, là, un live sur les munitions. On annonce des gros gagnants aussi, là, au-dessus de 8 ou 9 000 piastres de prix à gagner là, ce soir.
C'est très cool. Merci beaucoup, Martin.
Hey, ça fait plaisir, gang. Salut.
Merci. Salut.
L'excellent Martin Bourget.
Yannick.
Ouais. Puis, oui.
Quelques clics plus tard. Sur le National Geographic, t'es encore là, Martin, tu peux entendre, il est là, il écoute.
Ah, ben, je vais le remettre en onde.
Il y a des chercheurs qui ont capturé le plus gros python jamais découvert. T'sais, clairement, il n'y avait pas affaire à être là.
Ouais.
Il avait été réparti de façon non naturelle en forêt. Il pèse 97 kg, mesure près de 5,50 mètres de long. Les gars sur la photo le transportent avec une partie sur leur épaule, sont trois.
Ouais.
Puis il y a comme un jeu de S entre eux, là. Ça veut dire que le python, il est pas... Même... Ça t'étonne pas?
Ah non, ça m'étonne même pas. Ça peut venir excessivement gros. Écoute, dans les pitons, on va dire les pitons et les boas, là, tout ce qui est pitonidé, là, ça peut venir énorme. Allez voir le African Rock Python. Le piton de Birmanie, c'en est un. La majorité des... Toutes les boas, tout ce qui est constricteur, là, les boas, le Suriname, le boa constricteur standard, c'est tout des... Ça peut venir gros. Puis ça peut s'alimenter très facilement de chats, de petits chiens.
Mais
de
le boa mange des humains, là, on l'a vu dans Le Petit Prince, là, mais est-ce que le piton aussi ou...
Bien, écoute, si on s'en va vers le African Rock Python peut devenir assez gros, si on veut, pour s'attaquer à un jeune enfant. Si tu tapes African Rock Python, là, puis, écris fence après F-E-N-C-E, là, fence comme une clôture, là, tu vas voir, il meurt là-bas en mordant des clôtures électriques. Là. Check le set dedans qui est après ça.
Tabarouette, je l'ai devant moi, Martin, c'est incroyable.
Répète-nous ça.
African Rock Python, puis suit le mot fence, clôture en anglais.
Oui.
Tu vas voir le set dedans qui est après ça. Là. Ben ça, là, c'est relâché en pleine nature aux États-Unis. Je te jure, à pleine grandeur, un enfant, un jeune enfant, là, s'il ne l'avale pas, il peut le maganer sur un moyen
temps. Oh mon Dieu, un piton qui cogne à la porte d'une résidence. Là,
ben, au moins, il cogne avant d'entrer.
Ben, il cogne, mais il ne s'est pas affiché dans la fenêtre. Là, il s'est tassé du côté plat. Là.
Alors, mais il y a plein de vidéos comme ça. Des fois, c'est peut-être l'algorithme que j'ai là, qui me donne accès à ces vidéos-là. Mais des gens de boomers qui essaient de contrôler le piton ou qui essaient d'embarquer sur le dessus.
Check ça, Thérèse.
Qui essaient d'embarquer sur le dessus du crocodile pour l'immobiliser. Ouais. L'as-tu vu, celui-là?
Ouais, j'ai déjà vu.
Le monsieur s'est fait mordre la main. Mais tu t'attendais à quoi, man? Embarquer sur un crocodile?
Sélection naturelle. J'appelle ça la sélection naturelle.
Mordre la main. T'sais, on est, nous autres, sur le long de la rivière Limpopo, là, sur le long du Botswana, là, deux, trois fois par année, là, des crocodiles là, de 20, 21, 22 pieds. Là. C'est pas juste une main qui te croque, il va te dévisser à la tête. C'est ça qui va se passer. Là. Ouais. C'est de la faune sauvage. Puis laissez les espèces d'où ils viennent. Si vous avez à relâcher, allez voir votre vet avec. Si t'es pour pas avoir le 100 ou le 200$ pour faire euthanasier une bête à sang-froid comme un piton ou quelque chose comme ça, achète-en pas au départ ou annonce-le à donner, fais quelque chose. Mais ça peut créer des... Il y a peut-être, je te dirais, une dizaine d'années de ça, on a retrouvé dans la rivière Saint-Charles un snakehead. Un poisson à tête de serpent. Un snakehead.
J'ai vu ça.
Le nom latin, si vous voulez chercher, c'est un channa. C-H-A-N-N-A. Donc, on a relâché un northern snakehead dans la rivière Saint-Charles. Écoute, lui, il est tombé dans les truites puis dans les espèces d'ici. Il s'est mis à se nourrir. Ça vient plus long que ton bras, ça, là. Ça vient plus long que ton bras. Je pense que ça avait été pêché par un pêcheur, d'ailleurs. Il a dû faire un fichu saut quand il a sorti ça de l'eau, là. Mais ça vit dans des eaux qui sont très, très, très communes avec ce qu'on a ici. Il est capable de survivre sans aucun problème. Ça vit d'un trou d'eau plein de boîtes, cette histoire-là.
Mais qui a pris ça à quelque part puis qu'il a mis ça à quelque part? T'sais, c'est ça que je comprends pas. Et lui... Il l'a transporté aux douanes, là. C'était douane sans surveillance, puis il y en a un qui a réussi à passer avec...
Non, ça se vend en animalerie. Pour en avoir déjà importé là, pendant des années, là, des poissons tropicaux, les gens voient ça à l'animalerie, c'est tout cute, c'est tout beau, un Oscar, quand c'est dans l'aquarium, ça fait 3 pouces de long. Quand c'est rendu 16-18 pouces de long, puis ça mange 8 poissons rouges par jour, puis il est tanné, il décide de le prendre, fait comme ça passe pas dans le trou de la toilette.
le laveur de vitre, là, peux-tu devenir 10 fois plus gros, lui? Le têteux de côté?
Oh oui, les plecostomus. Les plecostomus, il y a certaines espèces de plecostomus dans tous les loricaridés. Là, il y en a là-dedans là, qui peuvent venir jusqu'à 3 pieds de long facilement, même plus que ça. Là, ça devient immense. Là.
Quand ton tête de vitre devient 3 pieds, là, si je pensais que tu as fini la chronique, mon Martin.
T'es à l'animalerie, là, t'es pour acheter un plecostomus, il y a des plecos qui vont rester petits. Il y en a qui deviennent très, très gros. Puis si tu as un petit 5 gallons, ça ne marchera pas. Il ne sera même plus capable de se virer dans l'aquarium. Il faut aller vers des espèces comme les ancistrus, par exemple. Et non pas les plecos. Et s'il vous plaît, allez pas me mettre ça dans un cours d'eau. Là. Allez l'offrir à l'Aquarium de Québec ou quelque chose de même.
Non, puis tu sais, je veux dire, moi, les serpents, là, ça, j'ai rarement confiance en un serpent. Là. tu sais, toutes les histoires d'horreur qu'on entend, il y a ça quelques années. Je vais juste finir mon histoire. Puis tu dois te souvenir de cette histoire-là. Un serpent qui s'était échappé de son vivarium, qui était passé par les conduits de ventilation dans le plafond, puis qui avait tombé sur un bébé. Puis en raison de son poids, il a tué le bébé.
Je m'en rappelle de ça.
Ça fait quelques années,
moi,
mais c'est arrivé, ça,
chez nous. Dans l'actualité, justement, il s'était échappé de son vivarium, puis la personne qui possédait le serpent s'était réveillée avec le serpent qui était bien droit de tout son long à côté.
Oui.
Là, Martin, il regarde. Bien, bien droit. Il paraît que ça mesure sa proie quand ça fait ça.
Ben oui.
Oui, c'est un mythe. Moi, je te dirais plus qu'il cherchait une source de chaleur. Là. C'est aussi simple que ça.
Toi, c'est ce que tu ferais.
Non, il coupe la tête.
Si Yannick fait ça dans un lit, là, il s'étend de tout son long.
Il cherche
bien droit,
ma source de chaleur.
Il cherche juste sa source de chaleur.
Pour en avoir manipulé des très gros, là, moi, je me suis déplacé avec des gens d'une association herpétologique pour aller aider justement un jeune qui avait échappé à un African Rock Python. Adulte, là. On parle la tête quasiment aussi... Ben, la tête aussi grosse que la mienne. Puis justement, il était rentré dans les murs, là. Il était pas dur à trouver. Partout où est-ce qu'il passe... Ah oui, il était rentré dans les murs. Partout où est-ce qu'il réussissait à passer, là, il fendait le G-Proc. Le G-Proc faisait comme une tente, carrément. Là. Il a fallu percer le G-Proc pour sortir de là, puis le monsieur était pas content. Mais les photos que vous avez vues, l'African Rock Python, là, ça, si ça te mord une main ou un bras, ça coupe des tendons, là, littéralement, là. Puis tu sais, je veux dire, malheureusement, ça s'est mal terminé pour l'African Rock Python, mais il se promenait aux abords d'une garderie. Là, juste en dessous, c'était une garderie. Cet animal-là serait sorti des dockings de ventilation-là, avec un petit creux. Il n'y a pas une gardienne qui aurait été capable de le détacher d'après un enfant. Ça devient très, 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 très gros.
Quand il est là, le serpent qui frappe à la porte, Yannick, tu l'avais.
Fait que le cours est fait, mon Martin.
C'est bon.
Un gros merci.
Yes, salut gang!
Salut! Bon, tu pensais pas adopter un serpent aujourd'hui, Pascal?
Ben, j'ai jamais pensé, ni hier, ni demain.
C'est ça. Mais tu sais, comme le gecko, là, moi, c'est mon gars qui est tombé en amour avec cette petite bête-là. Il m'a dit, papa, si je réussis à passer mon année, je veux un gecko. J'ai dit, parfait, tu vas avoir ton gecko si tu réussis à passer ton année.
T'avais pas foi en ton fils, fait que t'as pris cette promesse-là?
Je pensais qu'elle allait couler. C'est lui qui retient le plus de moi. Fait, je me suis dit, il réussira pas sa maternelle.
Je vais être la pire mère, moi. Puis... J'ai vu quelqu'un adopter deux rats l'autre jour pour ses enfants, puis j'étais juste...
Ouais.
C'est où l'amour arrête? T'sais, l'amour, ça s'arrête tout.
Ouais.
Comment est-ce que...
Ce qui est étonnant, Pascal...
Je n'aime pas assez mes enfants si j'achète pas deux rats comme animal de compagnie?
Non, non. Ce qui est étonnant, c'est de toujours dire non.
Faudrait que je dise oui à quoi?
Je dis non à peu près à ce que mes enfants me demandent 99 % du temps.
Mais ça fait sûrement de toi un bon père, là.
Ben oui. Ils n'ont pas toujours les meilleures idées. On n'est pas les meilleurs. On a des défauts comme tout le monde, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu dis tout le temps non. Tu sais, je voulais pas de chat. Je me suis ramassé avec deux chats.
Mais
je voulais pas de chien. Je me suis ramassé avec un chien. Je voulais pas de gecko. Je me suis ramassé avec un gecko.
Mais tu dis pas tout le temps non? Ou c'est ça ton 1 % sur le temps des maudits animaux?
Ben oui, mais c'est ça.
Je m'excuse, je suis pas une mauvaise personne. J'aime les animaux, mais pas tous.
Oui, Pascal.
Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pas de poils de chien sur son linge. C'est quelqu'un de triste.
Ça se peut. C'est quelqu'un de propre aussi.
Ah aussi. C'est ce que je me dis.
J'adore deux chiens.
Quand je sors mon linge, il est tout plein de poils, là, ça me met tout le temps en sacrament. Ah. Là, je passe mon petit rouleau. Là.
Ouais.
Mais si t'as des poils de rat sur toi,
ouais, ça
fait toi quoi?
Il m'a pas encore parlé de rat, fait que je répondrai pas à cette question-là.
On va espérer qu'il écoute pas.
J'espère que ça va être dans le 99 %
ouais.
Des fois où tu dis non.
13h23, vous avez des choses à nous dire sur le 418-971-1021. Il neige à plein ciel sur Québec présentement. Comment ça se passe dans votre secteur? 418-971-1021. En musique, Someday, avec Nickelback, sur les ondes de Boulevard.
1021.
Voilà.